Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier à Kinshasa, Matata Ponyo, l'ancien chef du gouvernement, a dénoncé les consonances politiques du rapport produit par l'IGF sur le présumé détournement des fonds à la base de la débâcle du projet Bukanga-Lonzo et a menacé de poursuivre l'IGF en justice pour atteinte à l'honneur et fausse accusation. Par ailleurs, Jules Alinghetti, inspecteur général des finances, demande aux sénateurs de demander plutôt au parquet général de la Cour constitutionnelle d'accélérer le processus pour le procès. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct et aussi interagir avec l'ensemble des internautes sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Polydor Basunga concourt à la production de cette émission coordonnée présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons, nous accueillons donc en ligne Maître Willy Wenga qui est avec nous. Maître Willy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R. Lungembo.
Est-ce que l'ancien chef du gouvernement, Matata Ponyo, pour ne pas les citer, a-t-il le droit le plus légitime d'ester en justice contre toute personne physique ou morale qu'il estime avoir porté atteinte à son honneur et à sa légitimité?
Ester en justice contre toute personne qui porte atteinte
à sa dignité,
à votre honneur, à votre dignité, à votre réputation, reste un droit constitutionnellement garanti, parce que la personne, la dignité d'une personne est sacrée, et il revient à chaque citoyen de saisir la justice toutes les fois qu'il considère que son honneur a été entaché. Cependant, lorsqu'on saisit la justice, on doit être fondé par le moyen de preuve que l'honneur a été entaché. On doit être fondé à démontrer que la dignité a été salie et il reviendra à la justice elle-même de dire si oui ou non votre dignité l'a été effectivement ou si la personne considérée comme ayant sali la dignité de la personne qui fait plainte, si cette personne-là avait effectivement agi avec intention de nuire à la réputation ou à la dignité de la personne plaignante.
Alors, une telle anticipation est-elle permise lorsque un dossier est encore pendant au niveau de la justice?
Il revient à la justice d'apprécier si l'action introduite devant elle est une anticipation ou c'est un droit fondamental qui devait être exercé. Pour certaines personnes, ils considéraient cela comme une fuite en avant. Cependant, pour la personne victime, elle devrait obtenir la justice de voir si les faits portés contre lui ont été des faits fondés. Vous savez, JR, il y a deux choses. Il se pourrait qu'un officier de police judiciaire, un magistrat, qui poursuit, par exemple, par voie d'enquête, un citoyen pour des faits supposés infractionnels, la démarche de le faire reste légale, mais lorsque ces faits-là sont portés à la connaissance du public au niveau déjà de l'enquête, ça porte un problème de dignité parce que l'enquête reste secrète et nul ne peut se voir déjà être considéré comme infracteur alors que l'enquêteur peut être contredit, peut-être avec des pièces qui viendraient de l'enquête une fois que celle-ci est menée par voie secrète.
Alors semble-t-il que ce dossier mis à l'examen n'est pas encore entré dans sa phase d'instruction?
Vous savez que lorsqu'il s'agit de poursuivre un sénateur, personne revêtue des avantages liés aux immunités, Et encore que le fait, par exemple, qui concernerait Matata Ponyo, ancien Premier ministre, le dit fait doit être rentré dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Il se pose beaucoup de problèmes en termes de début d'instruction. Mmh. Et pourtant, je pense que l'inspecteur général des finances, qui, face au ministère public, reste et demeure un officier de police judiciaire, ne doit pas déjà, sur le plan judiciaire, parler d'un dossier qui n'a pas commencé l'instruction. Mmh. Cependant, il y a lieu de reconnaître que l'inspecteur judiciaire, l'inspecteur général des finances, agissant pour compte du ministère public, mais avec une connotation purement politique d'accompagnement de la vision du chef de l'État, à un certain moment, il parle des dossiers avant l'instruction ou pendant l'instruction, oubliant parfois qu'il est officier de police judiciaire et astreint au secret d'instruction. Encore que l'instruction n'a pas encore commencé, il peut juste parler du souci de vouloir faire ceci demain, mais pas déjà de considérer que ce qu'il y a à faire demain aboutira à culpabiliser la personne sur qui les enquêtes devront être menées.
Alors, pour les cas d'espèce, Matata Ponyo a été cité dans ses rapports. A-t-il le droit aussi d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander d'accélérer la procédure ou d'accélérer le procès?
Bon, je me pose même la question de savoir que vient faire la Cour constitutionnelle à ce stade dès lors que l'instruction préjuridictionnelle n'a même pas encore commencé. Tout doit commencer d'abord par obtenir du Sénat la levée des immunités de
Matata Ponyo.
Matata Ponyo, avant d'obtenir, de voir aussi une quelconque instruction commencer. Encore que considérer l'IGF comme un inspecteur judiciaire, la poursuite des actes posés par Matata Ponyo devront être autorisés. Non seulement par le Sénat, mais beaucoup plus sur demande d'autorisation de monsieur le procureur général de la Cour de cassation.
Alors, pourquoi, disons, on ne sait pas, peut-être on se pose la question pourquoi c'est la tarde, l'instruction, mais ceux qui estiment que l'ancien chef du gouvernement peut envisager, lorsque peut-être le procès sera ouvert, et qu'on venait à établir son innocence, est-ce qu'il peut entamer une action réconventionnelle contre l'État congolais et l'IGF?
Généralement, l'action réconventionnelle a été toujours conçue comme une action en dommage et intérêt contre une personne qui a porté atteinte contre, qui a porté plainte contre une autre et que cette plainte venait d'être rejetée pour non-fondement. Mais averti du principe de l'irresponsabilité du ministère public, étant entendu que les enquêtes amenées par l'inspecteur général des finances devront aboutir, par exemple, à dresser un rapport à l'officier du ministère public, lequel, lui, a la responsabilité de saisir le juge aux fins de fixation, vous comprenez qu'à l'issue de tout, s'il y a acquittement, l'État qui est représenté par le ministère public demeure irresponsable et partant, aucune action conventionnelle n'est envisageable. Est-il vrai qu'une fois acquitté, une action distincte peut être introduite contre l'État congolais pour de dommages et préjudices causés peut-être du fait de ce procès-là?
Est-ce qu'on peut considérer la déclaration de l'ancien Premier ministre comme une menace contre l'État congolais?
Mais le Premier ministre est en droit de se plaindre lorsque sa réputation est entamé. Cependant, il ne lui revient pas aussi de commencer une défense extrajudiciaire. La bonne défense est à faire devant les instances établies, c'est-à-dire devant l'officier de police judiciaire. Toutes les paroles portées par voie des médias, que ce soit de l'inspecteur général des finances, que ce soit de l'ancien Premier ministre, toutes ces paroles-là n'ont comme vocation que d'enrichissement ou mieux des justifications politiques. Les justifications judiciaires liées aux enquêtes ne peuvent être faites que sur procès verbal devant l'officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte, comme c'est le cas de l'inspecteur général des finances, ou devant l'officier du ministère public. Tous ces propos au micro, en dehors de juges, du ministère public ou de l'officier de police judiciaire ne sont que des déclarations politiques qui ont l'air consommateurs connus.
Est-ce que ça peut constituer aussi une infraction pour le cas, par exemple, de Matata Ponyo?
Dire cela ne constitue à rien aucune infraction, sauf si, par exemple, dans ces propos-là, lui, à son tour aussi, venait à entacher la dignité des autres ou la dignité de la profession, où il venait à jeter de l'opprobre sur le travail que doit faire l'inspecteur général des finances, ainsi que la suite aux fins d'instruction.
Voilà. Alors nous vous gardons en ligne, Maître Willy Wenga, le temps de parcourir l'ensemble des auditeurs qui ont souhaité intervenir dans cette émission sur ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Franck, vous êtes à Vienne, vous êtes avec nous. Bonjour Franck et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour notre ami J.R., bonjour à l'invité Maître Willy Wenga, à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors vous avez suivi notre invité qui a bien insisté en disant que les propos des uns et des autres, là je cite l'ancien chef du gouvernement, Matata Ponyo, et aussi l'inspecteur général de finances, ça constitue des justifications simplement politiques, et s'il s'agissait des justifications juridiques, ça ne pouvait qu'attendre des voies légales, notamment la justice elle-même.
Oui, je lui dis merci, je lui donne raison. Merci à vous aussi pour la confiance. Par rapport à ce qu'il venait de dire, nous le reconnaissons tous que la Constitution, telle que cela doit s'appliquer chez nous, on l'applique dans toutes les circonstances. Et si la Constitution doit s'appliquer dans toutes les circonstances, c'est déjà aussi d'une manière d'admettre que l'ancien Premier ministre, dans la mesure où il se sentirait baisé dans sa dignité, il peut chercher à se réhabiliter ou à se remettre dans ses droits les plus légitimes. Ça, je crois que ce n'est pas vraiment un grand problème. Puis, ce qui m'étonne un peu dans ce dossier, c'est la culture de ping-pong. C'est comme si la République démocratique du Congo, c'est un État où on peut facilement parler de détournement à millions de dollars, mais sans que les concernés ou les grands concernés se sentent un peu quelque part impliqués ou interpellés. Et à suivre un peu l'évolution de ce dossier, on se demande vraiment si on peut avoir des garanties de voir la RDC se développer avec cette culture d'irresponsabilité. Mon ami Gère, laissez-moi un peu évoquer seulement deux faits. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention une des sorties médiatiques de l'inspecteur général des finances sur les diverses traçabilités et parcelles de responsabilité sur la gestion que lui-même a qualifiée de débâcle de ce projet dit Bukangalonzo. Et quand maintenant l'inspection générale des finances, comme structure de pouvoir attachée à la présidence, cible un groupe d'individus ou bien un groupe de personnes ayant exercé à cette époque-là des charges régaliennes de l'État, et que les concernés disent traduire encore la structure du pouvoir en justice, c'est déjà un jeu de ping-pong. La question que nous pouvons nous poser, la question la plus simple, l'invité venait de le dire, mais pourquoi la justice ne se saisit-elle pas de ces dossiers qui brûlent? C'est à la justice, du moment où les enquêtes ont été menées, du moment où il y a un peu manque de clarté par-ci, par-là, du moment où on commence à nous distraire sur base de sorties médiatiques, mais c'est à la justice de convoquer, de détruire les dossiers et de fixer les audiences. Comme ça, de part et d'autre, chacun aura à se justifier et l'opinion sera fixée. Mais tel que le jeu est mené, c'est juste pour une consommation pour distraire les gens, parce que tel va dire, moi je ne suis pas responsable, tel va dire, moi j'ai fait mes enquêtes, c'est toi qui es responsable, mais que dit la justice? Et je crois que c'est à ce moment, si nous voulons vraiment développer ce pays, la justice doit être l'épine dorsale.
Oui, mais quand on lit à la lettre la déclaration de l'ancien Premier ministre, on se rend compte que finalement, ça devient une affaire entre deux individus. Il s'agit de lui et de l'inspecteur général Alinghetti, pour ne pas les citer. Et pourtant, Alinghetti ne représente qu'une structure.
J'ai suivi la première sortie médiatique de l'inspecteur général des finances sur Barcelona Politique. J'ai suivi l'interview de notre premier ministre. C'est justement ce que moi je suis en train de dire, que ça devient un jeu de ping-pong. Les premiers à mener ces investigations, ces enquêtes, moyennant les ordres de mission émanant de la présidence, et les seconds cherchent à se défendre. Mais jusque-là, nous, citoyens congolais, on ne sait pas qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Mais c'est que la justice, maintenant, de fixer l'opinion, parce que de part et d'autre, chacun cherche à se tirer la couverture de son côté. Puis mon ami Gérard, comme l'inspection générale des finances a déjà commencé à mener de telles investigations, on lui demanderait, on prierait, on voudrait qu'on ne s'arrête pas seulement à un seul projet. Il y a beaucoup de projets dont on nous a annoncé des financements, mais dont on ne voit aucune trace de matérialisation. Il y a les projets de l'aéroport Ndjili, il y a les projets de bananes, la construction du port en eau profonde, il y a les gros passes, il y a l'argent de la Banque mondiale pour l'enseignement, il y a les projets de la SNEL, il y a les projets de la fibre optique, mais qu'on dise aussi aux citoyens congolais ce qu'il en est exactement.
Oui, on y reviendra, mais le débat aujourd'hui,
c'est on voit seulement un
merci.
Vraiment se réjouir du gâteau. Et ça ne va
merci,
pas.
Merci beaucoup. Donc le souci, c'est que cette affaire soit tirée au clair et qu'on nous évite ces genres de spectacles que vous avez qualifiés de jeux de ping-pong. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne en Autriche. Alors on va prendre Christian qui est à Kinshasa. Christian, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Géry, bonjour à l'invité.
Alors quelle est votre analyse par rapport à cette question? Est-ce que c'est vraiment sur le terrain juridique qu'il faut, disons, analyser les propos des uns et des autres, ou encore prendre ça comme de manière politique, et que là où tout sur un terrain politique, là où tout se joue clairement?
Non, il faut noter d'abord que ce que Matata a fait, en tout cas personnellement, je dirais que c'est en quelque sorte une manière pour lui de créer un incident à la procédure. Cet incident à la procédure est défini comme étant comme étant à tout ce qui vient interrompre les déroulements continus de l'instance. Il a peur que Gilles Alinghetti l'inspecteur général de finances. Et de ce fait, il a automatiquement la qualité, si vous voulez, d'un OPJ à compétence générale, certainement, en matière des finances publiques. Mmh. C'est-à-dire, en matière des finances publiques, Gilles Alinghetti, étant inspecteur général des finances, a une compétence très large. C'est-à-dire, Matata Ponyo, le fait pour lui de s'en prendre aux démarches que cette institution, l'UGF, a entrepris, je crois que cela vient un peu chercher ou encore ma tante ne comprend pas pourquoi pourquoi de l'UGF, lui étant ancien premier ministre. Et donc moi je me demande si ma tante avait
mais l'impression que ça donne, ma tante ne s'en prend pas à l'UGF, mais à la personne de la Alinghetti.
Oui, il s'en prend à la personne de l'Alinghetti. L'autre fois, j'ai suivi votre confrère, Pierre Louara, pour ne pas les citer, dire que Gilles Alinghetti ne pouvait pas amener ces gens d'instruction, ne pouvait pas travailler de la manière dont il travaille. Non, lui étant au PJ, connaissant que le finance publique de l'État est en matière qui aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre et de salive, je crois que la meilleure des procédures, c'est d'agir comme Gilles Alinghetti est en train de faire. Maintenant, ça cherche beaucoup plus des parapluies, bien des raisons politiques, pour chercher, n'est-ce pas, à ce que l'on dise, voilà, la procédure, certainement, ici, nous sommes d'abord au niveau de l'ISEF, donc c'est en quelque sorte comme une procédure pré-juridictionnelle, parce que l'ISEF va finalement donner son rapport au procureur près la Cour constitutionnelle, et donc là, la procédure va continuer, c'est par là que la procédure pré-juridictionnelle va commencer. Alors, lui, il cherche déjà des voies, des moyens, comment interrompre cette procédure.
Alors, Christian, que vient faire la Cour constitutionnelle à ce niveau? Est-ce que la Cour constitutionnelle, c'est le juge naturel de l'ancien chef du gouvernement?
Mais évidemment, l'ancien premier ministre, ici Matata est poursuivi pour des faits qu'il a commis en étant premier ministre.
Premier ministre.
Voyez-vous? Et donc, les juges constitutionnels, c'est les juges. Du premier
oui,
ministre.
Oui, en tout cas, jusque-là, il n'est pas encore
de la République. Et donc, de ce fait, la Cour constitutionnelle a droit, a automatiquement la possibilité de poursuivre l'ancien premier ministre pour des faits commis pendant que ces derniers étaient encore,
je dirais,
aux affaires. Mmh. Et donc, Matata Ponyo étant un fin politique, il cherche à embrayer la carte, il cherche à créer
un incident, comme vous l'avez dit,
une certaine, réticence de la part de la population à un certain soulèvement pour dire, voilà, il y a acharnement et que la procédure ne puisse plus continuer et que lui ne soit pas attiré devant son juge naturel. Mmh. Voilà pourquoi Matata Ponyo ne fait que multiplier
des déclarations, ces stratagèmes.
Donc, je crois que étant un bon national, il doit attendre l'issue heureuse de la procédure qu'en classera le procureur puis la Cour constitutionnelle. Et de cette manière qu'il pourra maintenant amener
ses
allégations.
Si jamais il était établi innocent.
Pour dire, voilà, je suis innocent. C'est par là qu'il va témoigner. Et que si le procureur estime que tous les faits allégués par Matata n'enlèvent en rien sa culpabilité et que celui-ci saisit le juge, je crois que c'est au niveau de la justice, au niveau de juge que Matata ira soulever ses prétentions et démontrer qu'il est innocent. Mais ici, je crois que c'est là où toutes ces allégations n'aura qu'un
seul fait. Celui,
il cherche tout simplement des dilatoires inutiles qu'il ne faut pas continuer à soulever, étant donné que le finance publique aujourd'hui pose problème, la population est toujours meurtrie, et donc la population suit à la loupe tout ce qui se passe. Alors, au lieu, lui cherche à avoir les soutiens de la population, ça sera beaucoup plus en retour le mépris de la population contre sa personne. Il n'a qu'à se taire et attendre que la procédure soit enclenchée et que à l'issue de cela, il pourra soit être déclaré non coupable et acquitté. Parce que Gérard Lungemo,
le
juge n'a pas la mission seulement de condamner la personne par qui
l'on a déféré
par devant lui. Le juge a également la possibilité d'acquitter la personne.
Merci beaucoup, Christian, vous avez pris assez de temps. Alors, on va prendre, et je retiens que pour vous, c'est juste un incident à la procédure que Matata Ponyo risque, essaye de faire pour interrompre le déroulement normal de l'instant. Alors, merci beaucoup, Christian. On prend Jérémy. Jérémy, vous êtes avec nous?
Oui, merci, monsieur JR.
Alors, vous êtes à Lubumbashi. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur JR. Vraiment, cette fameuse question, c'est la énième fois que nous débattons de ce sujet sur Okapi. Je pense que il est plus que temps pour que les sénateurs, monsieur Matata, comprennent que la justice, elle reste indépendante et bien sûr, la République des intouchables étant révolue avec l'avènement de l'état des droits, mais il doit laisser les choses se poursuivre normalement. L'IGF est là pour faire les suivis, les enquêtes, pour pouvoir, n'est-ce pas, recueillir les données, pour pouvoir présenter les moyens à la justice. Et je pense que, en son temps, la gestion n'a pas été peut-être à la hauteur, ça c'est le cas de le dire, parce que à ce stade, on se pose la question, mais qui s'acharne à la personne de M. Matata? Mais qu'il soit calme, qu'il garde son mal en patience, qu'il laisse la justice, et donc c'est-à-dire l'IGF, poursuivre ses enquêtes et pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter les situations comme il se doit. Parce que je me suis en train de me voir que ça m'inquiète un peu la manière de faire les choses de nos politiciens congolais, donc c'est-à-dire pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à trouver une issue pour y sortir. On cherche à faire ce qu'on appelle des conférences de presse, des sorties médiatiques qui ne profitent rien à la population. Il est évident qu'il y a eu assez d'argent, des sommes faramineuses qui ont disparu et qui n'ont pas profité, qui n'ont pas été canalisées là où il fallait. Mais le peuple congolais est là pour attendre les travaux concrets pour ce l'argent était sorti. Mais s'il s'avérait qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Et d'ailleurs, le Premier ministre Ilunga a fait ce constat. Il a constaté que rien n'a pas tourné. Mais qu'on laisse la justice faire son travail, qu'on garde, qu'on reste calme, s'il s'avérait que les faits n'ont pas été correctement établis. Mais s'il se sent à l'aise, qu'il soit calme et les faits vont les déculpabiliser. Au lieu de pouvoir ne pas chercher les faux fuyants, là, ça ne serait pas normal, parce que il est évident que l'État congolais cherche à ce que les choses s'organisent normalement pour que l'argent, ou l'argent qui est sorti du trésor, qui a eu, n'est-ce pas, évasion, puisse profiter au peuple congolais. Mais ce que je m'inquiète aussi, c'est la manière aussi de faire de l'inspection générale de finances. Je vois qu'elle est en train de faire la ronde dans, presque sur toute l'étendue, même ici à Lubumbashi, on l'a vu descendre, même à Kolwezi, mais le problème c'est que les dénouements de toutes ces enquêtes, on n'arrive pas à comprendre jusque-là. On ne voit pas tous ces gens-là qui ont touché à l'argent de l'État illicitement être condamnés ou déférés devant les instances judiciaires pour y répondre. Jusque-là, on voit qu'il y a un tas mort, on dirait qu'il y a des gens intouchables dans ce pays. Et ceux qui ont gouverné il y a tant, parce que on nous a laissé entendre jusque là, on ne voit pas l'audit aboutir, on ne voit pas toutes ces démarches là aboutir pour condamner totalement ceux qui ont touché. Imaginez-vous, tout ce qui a eu à disparaître dans les trésors de l'État pouvait aider ce pays à décoller et peut-être booster le budget de notre pays qui est jusque là vraiment en dents de scie. C'est inacceptable dans ce pays. Donc nous demandons vraiment que l'IGF ne se décourage pas, elle doit continuer. Donc, c'est-à-dire, l'inspection doit continuer son travail et frapper. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être à la, donc, c'est-à-dire, au-dessus de la loi. Nous sommes tous en dessous de la loi et nous devons laisser la justice faire son travail, que les coubables soient punis. Et si quelqu'un se retrouve être, il plaide non coupable, mais ça, c'est la loi. Mais que la justice fasse son travail. Et aussi, nous en interpellons aussi à la Cour constitutionnelle, parce que le Premier ministre étant dans l'exécutif et qu'il répond devant le Parlement, je pense que si il y a eu mention ou pas, mais la Cour constitutionnelle doit donc statuer sur ce dossier pour voir réellement si monsieur le sénateur Matata Mponou est plaidé non coupable ou il n'a pas canalisé les fonds comme il se devait. C'est le problème de la justice.
Merci beaucoup, Jérémy.
Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait la justice à deux vitesses. Il n'y a que les petits légumes qui sont frappés et les autres sont intouchables. En ce moment-là, nous allons parler de l'état des droits et rien ne peut marcher parce que nous risquons de rester dans les slogans, dans la forme et dans les fonds, il n'y a presque, c'est presque une substance.
Voilà, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir appelé.
Donc, tout ce qui a été échapper au trésor de l'État, revenir totalement dans les comptes pour que le peuple congolais en tire profit. Parce que nous ne voulons pas que le peuple congolais soit considéré comme étant la cible pour pouvoir, n'est-ce pas,
la
population, on perturbe l'attention de la population avec des discours qui
Jérémy, vous avez assez parlé, alors on va passer à Amos, mais le temps de retrouver d'abord notre invité et de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent aussi participer à cette émission, qui parle de cette débâcle de Bukanga Lonzo avec les sorties médiatiques de Matata Ponyo ainsi que de l'IGF. Matata qui menace de traduire en justice l'inspecteur général des finances Jules Alinghetti. Alors d'autres répliquent en disant que Jules Alinghetti n'agit pas en son nom propre, mais il agit plutôt au nom de la structure et aussi a été saisi pour mener cette enquête par l'État congolais. 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Willy Wenga, vous êtes en ligne et vous avez suivi cette première série des auditeurs. Alors comment réagissez-vous après avoir écouté par exemple Christian qui dit la démarche de Matata Ponyo ne constitue simplement un incident que ce dernier va mettre dans la procédure?
Merci beaucoup, JR. Je pense que ça soit M. Matata Ponyo, que ça soit l'inspecteur général des finances, chacun de son côté doit rester calme. L'inspecteur général des finances doit travailler selon les règles de sa déontologie. Vous savez, l'inspecteur général des finances a toujours été attaché au ministère des finances. aujourd'hui par la volonté du chef de l'État, c'est attaché à la présidence. Ce n'est pas le fait que ça soit attaché à la présidence que ça doit perdre sa déontologie. Aussi, M. Matata Ponyo, politiquement, il a le droit de parler. Mais sur le plan judiciaire, il doit attendre le temps qu'on l'interpellera pour qu'il présente ses moyens de défense. On ne peut pas se justifier judiciairement par le média. On ne peut pas aussi considérer par le média déjà une personne qui a la présomption d'innocence être considérée comme déjà un condamné. Mmh. Vous voyez que dans ces histoires-là, il y a d'abord le principe sacré constitutionnel de la présomption d'innocence. Il y a le principe contradictoire qui est un principe sacré constitutionnellement garanti. Il y a aussi le secret d'instruction. Et je pense que l'honorable Matata Ponyo, ancien Premier ministre, doit d'abord rester calme, préparer sa défense, se rappeler qu'une fois, à un certain moment de l'histoire, il a eu à gérer l'argent de l'État et que par devoir de redevabilité, il devait s'attendre un jour qu'on lui pose la question « Qu'avez-vous fait avec tel argent? Qu'avez-vous fait avec tel projet ?» Et une fois qu'il est en présence des pièces, il se défendra, il sera innocenté ou il sera culpabilisé. Et il revient aussi à l'inspecteur général des finances de ne pas déjà considérer Matata comme coupable alors qu'il n'a pas encore opposé le pièce futur de l'enquête ou de l'audit pour démontrer si oui ou non il est coupable. Donc l'essentiel dans ce genre de dossier, c'est de demander à celui qui veut instruire ou qui va enquêter un certain nombre de démarches à faire et surtout à garantir à des personnes sur qui il faut enquêter un certain privilège de la présomption d'innocence, parce qu'on n'a jamais été présumé coupable. Donc, les uns comme les autres ont raison de dire que, d'une part, M. Matata ne doit pas faire comme s'il n'a jamais géré le fonds de l'État, et d'autre part, que la Société générale des finances ne doit pas faire un show sur un dossier qui implique la vie des gens, la vie de la nation, et un dossier qui nécessite, pour son efficacité, que ça soit traité dans l'extrême obligation du secret d'instruction.
Mmh. Alors, lorsque vous l'avez si bien dit, quand on a ouvert cette émission, que le juge, pardon, l'inspecteur général de finances agit comme un officier de la police. Et un officier de la police est pratiquement un auxiliaire de la justice, hein, l'OPJ. Il est l'auxiliaire de la justice. Alors, il agit et transmet ses dossiers auprès des procureurs, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, donc...
Oui.
En ce moment, est-ce qu'on peut dire que le fait de remettre les dossiers à la Cour constitutionnelle, c'est tout à fait l'idéal? Et la démarche est bien suivie?
En fait, la question qui est là, c'est que les uns et les autres doivent savoir comment on saisit les instances et quelle instance saisir lorsqu'il faut instruire une cause. C'est-à-dire que l'inspecteur général des finances, comme officier de police judiciaire, doit mener ses enquêtes conformément à la Constitution, c'est-à-dire s'agissant d'une action qui doit être ouverte contre un ancien Premier ministre qui, au moment des faits, était couvert des immunités, au jour de l'ouverture d'instruction, est encore couvert d'immunité parlementaire, il doit d'abord obtenir la levée de ses immunités. Première démarche. À ce titre-là, comme il s'agit d'un Premier ministre qui est justiciable devant la Cour constitutionnelle, l'inspecteur général des finances devrait obtenir d'abord du procureur général près la Cour constitutionnelle. Tout à l'heure, là, j'ai parlé de la Cour de cassation, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Le cutus, c'est-à-dire que le procureur général près la Cour constitutionnelle devra saisir le Sénat pour que le Sénat lève les immunités et que lui, le procureur général pour la Cour de constitutionnelle, autorise les poursuites, étant entendu que l'inspecteur général des finances, et je pense que c'est là où les gens doivent éviter la confusion,
tout à fait.
Je suis tenté de croire que l'inspecteur général des finances a saisi le procureur général pour la Cour constitutionnelle, et non la Cour. le procureur général pour la Cour constitutionnelle, qui est le procureur général poursuivant des actes posés par le Premier ministre, ceci étant considéré comme infractionnel. Et donc, c'est le procureur général pour la Cour constitutionnelle qui doit saisir le Sénat, et le Sénat lève les immunités à ce moment-là, les enquêtes proprement dites, diligentées par le secrétaire général sous l'autorisation du procureur général pour la Cour constitutionnelle, devront commencer.
Alors, la première démarche, c'est solliciter la levée des immunités. Et quelle sera la deuxième étape alors?
Lorsque le procureur général est convaincu du rapport lui fait par le secrétaire général des finances, le procureur général pour la Cour constitutionnelle saisit le Sénat pour la levée des immunités de Matata Ponyo. Mmh. Si le Sénat autorise la poursuite, le travail continue. Si le Sénat n'autorise pas la poursuite,
le travail s'arrête. Alors, en ce moment-là, quand le travail va s'arrêter, en ce moment-là, que nous disons, ceux qui évoquent l'action réconventionnelle contre l'État congolais où l'IGF tient sa route pour Matata Ponyo.
Il n'y a jamais eu d'action réconventionnelle devant le parquet, encore que le parquet, en demandant l'autorisation et en ne l'obtenant pas, ne dit pas au niveau du parquet que le dossier est classé sans suite. Vous voyez? Le parquet lui est convaincu qu'il y a des choses à poursuivre. Le Sénat dit que s'il y a des choses à poursuivre, nous ne trouvons pas l'opportunité de lever les immunités. Donc la cause reste comme ça, stagnante. On ne connaîtra pas la vérité. Les choses sont telles qu'elles sont. Et voilà.
Donc à ce niveau-là, le dossier est classé. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut classer les dossiers? Ou bien les dossiers restent pendants et qui peuvent rebondir plus tard.
Parce qu'on ne peut pas classer un dossier qui n'a pas été instruit. Les dossiers restent pendants et peut-être le procureur général devra encore demain ou après-demain, un autre jour, remotiver sa demande d'autorisation et un autre Sénat ou le même Sénat pouvait à ce moment-là trouver des raisons de livrer son membre sénateur. Parce qu'il faut reconnaître que quelque part, les députés nationaux et les sénateurs ne se livrent pas facilement comme ça. Et ce qui crée parfois les freins à des poursuites, des dossiers où, en définitive, on pouvait condamner ou on pouvait innocenter.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga. On va écouter également d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Et puis, on reviendra vers vous pour la suite. Alors, le temps de prendre Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Alors quel est votre commentaire lorsque Franck qualifie la sortie médiatique de Matata Ponyo et même c'est celle de Jules Alinghetti, l'inspecteur général des finances, de jeu de ping-pong, et que Christian, lui, il fustige le comportement plutôt de l'ancien Premier ministre, qu'il qualifie d'ailleurs d'un incident à la procédure. Alors comment réagissez-vous?
En fait, JR, par rapport à cette question, moi, je pense que Matata Ponyo est en train de vouloir embrouiller la carte. Au moment où déjà le dossier est pendant en justice, il devait laisser que la justice fasse son travail. S'il ne se reproche absolument de rien, il sera innocenté. Mais la grande question qu'on doit se poser, JR, et Matata devrait se poser cette question, est-ce que Bukangalonzo a produit ses effets tels que le peuple congolais l'attendait? C'est une grande question que tout le monde peut se poser. Si oui, c'est-à-dire Matata sera innocenté. Sinon, c'est-à-dire il doit répondre de ses actes parce que tout le monde, comme je l'avais encore dit à votre micro pour ce sujet, tout le monde attendait grand chose de ce projet Bukangalonzo. Mais à la jour où vont les choses, tout le monde vous dit que les travaux s'étaient arrêtés, les projets s'étaient arrêtés. Au moment où le peuple congolais n'a rien vécu comme résultat de ce projet-là. Voilà pourquoi, moi, je, comme l'invité venait de le dire, les uns et les autres devaient s'apaiser et laisser la justice faire son travail. Je voudrais que sur le premier intervenant qui a parlé d'un état de droit qu'actuellement le pays est en train de connaître un état de droit. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que si on peut même se poser la question par rapport au travail de l'IGF, est-ce que l'IGF peut nous dire la suite du dossier de tournement des fonds au ministère national de la Santé avec le ministère de Teme Longondo? Parce qu'on a parlé qu'il y aurait eu des tournements, mais jusqu'à là, l'IGF est parti faire des enquêtes. Mais quelle est la suite? On devrait éviter de faire montrer à l'opinion internationale que la justice congolaise serait en train d'être manipulée. Ça ne se fait pas comprendre, JR. Et à part ça, vous savez que dans la justice, parce qu'on ne doit pas parler d'un état de droit, si du moins il y a certains gens qui sont intouchables et d'autres qui sont concernés par cette même justice, l'opinion continue de faire beaucoup. C'est-à-dire, pour que la RDC devienne réellement un état de droit, nous devions d'abord avoir une justice qui n'est pas manipulée, une justice qui est au service du peuple. Et c'est là que nous parlerons d'un état de droit. Dans le cas contraire, on ne cessera jamais de parler de manipulation d'une justice qui travaille à double vitesse. Et je pense que ça sera très difficile pour notre pays.
Voilà, merci beaucoup Amos d'avoir appelé. Alors on prend Gracia et Keta Kisangani. Gracia, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis?
Oui, monsieur, il faut savoir que l'inspection générale des finances, c'est un service bien établi par le gouvernement et par le chef de l'État. L'inspection générale des finances est constituée par des personnes compétentes et responsables. Et ça ne sert à rien de faire un faux rapport à la tête de ce premier ministre, Matata Ponyo, dont nous tous, nous savons comment il avait gouverné ce pays à l'époque par sa compétence et ses innovations. D'où il était même le patron du projet de Bukangalos. Mais ce qui me fait mal est que lorsque j'entends les gens sont en train de dire que lui au moins a planté le maïs et avait récolté l'université. Mais c'est bien, mais quelle université? Et est-ce que les fonds de ces projets étaient pour récolter les établissements privés? D'ailleurs, nous sommes dans un état de droit. M. Matata Ponyo a ses droits de défense. Je l'encourage à poursuivre l'expression générale des finances en justice. Peut-être grâce à lui que la justice peut accélérer le processus pour le procès qui va l'air confronter afin que la population puisse connaître la vérité sur l'échec de ces projets de Bukangalos dont les fonds étaient sortis du trésor public. Voilà un peu ce qui était comme ma contribution.
Merci beaucoup Gracia d'avoir appelé de Kisangani. On va poursuivre cette émission et si vous venez à peine de nous rejoindre, notez que au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier à Kinshasa, Matata Ponyo, ancien premier ministre, a dénoncé les consonances politiques du rapport produit par l'IGF sur le présumé détournement des fonds à la base de la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo et a même menacé de poursuivre l'IGF en justice pour atteinte à l'honneur et fausse accusation. Alors par ailleurs, Jules Alinghetti, inspecteur général des finances, demande au sénateur de demander plutôt au parquet général de la Cour constitutionnelle d'accélérer le processus pour le procès. Alors comment commentez-vous cette actualité? Voilà, donc on revient à vous, maître Willy Wenga. Comment vous réagissez après avoir écouté ces deux derniers auditeurs?
Les deux derniers auditeurs ont dit quelque chose quand même qui m'intéresse. C'est-à-dire que la question fondamentale ici, c'est toujours le bruit qui entoure les enquêtes. Et aussi, les gens doivent savoir deux choses. C'est que l'inspecteur général, son travail est d'enquêter et de faire un rapport. Ce n'est pas à lui de juger. Ce n'est pas à lui de dire aux gens demain que voilà, après avoir mené l'enquête, qu'elle a été condamnée. Non. Si par exemple l'inspecteur général des finances dresse son rapport et que ce rapport-là ne connaît pas de suite au niveau du ministère public, cela signifie que le ministère public a considéré qu'il n'avait pas lieu à poursuivre. Parce que le ministère public n'est pas lié par l'enquête menée par l'officier de police judiciaire. Le ministère public a encore le pouvoir d'enquêter et d'apprécier à sa manière le travail fait par ses OPG. Et ici, le droit de la défense, c'est un droit garanti. Tout le monde est en train de reconnaître là que Matata Ponyo a un droit à la défense, a un droit pour se défendre. Et partant, il ne doit pas voir ce droit-là lui être retiré par une présomption de culpabilité. D'où il faut combiner les deux. L'inspecteur général des finances devra attendre qu'il soit autorisé à poursuivre, parce que jusque-là, le procureur général pour la Cour constitutionnelle ne l'a pas encore donné le feu vert, parce que ce feu vert devra venir de l'autorisation du Sénat. Et lorsque tout ce processus-là, le Sénat n'a pas encore dit un mot, l'instruction contre Matata n'a pas encore commencé.
Mm-hmm.
L'instruction contre Matata ne commencera que par la levée de ses immunités. Et avant cette levée des immunités, tout propos malveillant, tout propos tendant à le considérer comme coupable, comme ayant détourné, peuvent s'avérer comme des propos qui touchent à la dignité de M. Matata.
Mmh.
Aussi, M. Matata ne doit pas tomber dans un piège de commencer à se défendre par rapport à des propos qui ont été tenus avant l'instruction. Il doit aussi, à son tour, attendre que ses immunités soient levées et que l'instruction commence pour qu'il se défende en bonne et due forme devant les inspecteurs ou le magistrat inspecteur.
Oui, il y a un auditeur qui a commenté. Oui, Maître Willy, il y a un auditeur qui a commenté, qui dit il y a des signes qui ne trompent pas. Avant la sortie médiatique de Matata Pognon, nous avons vu pratiquement les quatre journalistes s'adonner à ces mêmes exercices de défendre l'ancien chef du gouvernement. Alors, est-ce que vous partagez cet même avis, que finalement c'est juste un incident de procédure que cherche l'ancien Premier ministre?
On ne peut pas chercher un incident de procédure là où aucune procédure n'a commencé.
Mmh.
Là où aucune procédure n'a commencé, on ne peut pas parler d'incident de procédure.
Mmh.
Dès lors que un incident de procédure, c'est dans la procédure. Un incident de procédure, c'est devant un inspecteur, c'est devant un magistrat, c'est devant un juge. Toute communication avant l'instruction, ce sont que des communications politiques, et que s'il y a des journalistes qui se sont adonnés et aussi la défense de Matata, ce sont que des défenses politico-médiatiques, parce que les journalistes n'ont pas la mission de défendre judiciairement une personne poursuivie ou à poursuivre, nonobstant l'attachement à cette personne-là. Donc le reste, ce ne sont que des propos, des communications politiques, des shows politiques, des défenses politiques, mais sur le plan judiciaire, sur le plan de la justice, la procédure est secrète, la procédure est connue, s'agissant des actes posés par un ancien ministre au moment de l'exercice de ses fonctions, s'agissant d'un ancien premier ministre, aujourd'hui sénateur, qui doit être poursuivi alors qu'il est couvert des immunités, il a une procédure connue, et cette procédure-là est ignorée par beaucoup de gens. Laissons que cette procédure puisse aller de l'avant, que celui qui croit qu'il y a culpabilité, qu'il apprête les instruments de la culpabilité en vertu du principe actori cubit probatio, que celui qui sait qu'il est innocent, qu'il apprête ses moyens de défense au regard des pièces qu'on lui opposera, et demain, c'est le peuple qui gagnera, parce que le peuple saura si oui ou non il y a une infraction, comment cette infraction a été traitée, comment est-ce que cette infraction a été instruite, comment cette infraction a été amenée jusqu'à un jugement de culpabilité ou d'innocence.
Mais ce qui étonne plus d'un, les faits sont là, parce que bon, finalement, le rapport de l'IGF n'est pas l'unique, il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres cabinets d'audit qui ont mené pratiquement les mêmes enquêtes, et aussi, disons pour boucler la boucle d'ailleurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a procédé aussi, a fait un déplacement de Bukar Alonso pour finalement produire également un rapport de sa mission en disant que il y a eu vraiment la débâcle de ce projet Bukar Alonso. Donc les faits sont là. Est-ce qu'encore faut-il qu'on puisse les prouver, ou que les l'inspecteur général de finances puisse les prouver, et pour que finalement les coupables soient condamnés. Donc bref, on se dit finalement c'est la politique qui prend le dessus sur les droits.
Il faut reconnaître que ce soit les enquêtes indépendantes, que ce soit les audits, que ce soit les enquêtes du gouvernement, toutes ces enquêtes-là, c'est pour constituer les dossiers. Pour constituer les dossiers. Les dossiers à soumettre au ministère public, lequel le ministère public doit les opposer à la personne supposée être auteur de ces forfaits pour être jugé. Il revient au droit de la défense aussi, en face de ces pièces-là, en face de ces preuves de débâcle, de vous dire aussi qu'est-ce qui avait fait qu'il y ait ce débâcle, peut-être demain il va invoquer les causes de non-imputabilité, peut-être il va évoquer les forces majeures, peut-être il va évoquer les situations. Ça, c'est le droit des uns et des autres.
Oui, Maître Willy, si vous le permettez, on va écouter juste un dernier auditeur et puis on conclut avec vous. Alors François, vous êtes à Ilebo, vous nous avez rejoint François. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, j'ai le mot la bonne, Andy. Merci pour la parole.
Alors comment analysez-vous le sorti médiatique de Matata Ponyo ainsi que celle de Jules Alinghetti?
Oui, merci beaucoup. La thématique de Matata Ponyo... c'est valable et il jouit de la présomption de l'innocence jusque-là parce que le procès n'a pas été fixé. L'inspection générale des finances qui a fait son enquête et qui a établi son rapport n'est pas aussi justement accepté d'emblée comme ça. Il faut que la justice puisse se saisir pour établir le fait. Vous savez, nous devons avoir quand même d'estime à respecter comme les anciens dignitaires. Maintenant, pour ce l'ancien premier ministre qui a rénové le pays. Aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, si le PCC n'est plus au pouvoir, nous n'allons pas commencer à marchander avec son nom, faire de n'importe quoi pour plaire au chef de l'État actuel. Je pense que les gens doivent avoir des estimes envers Maintenant, pour l'État. Mais c'est qui, dans son parcours ou son cursus politique administratif, il a laissé des traces. Donc, attendons voir ce que la justice va faire, que pour commencer à les diaboliser, lui faire des terres comme s'il pourra aussi rejoindre ses lecteurs dans la prison. Non, nous n'allons pas voir ce qu'il tire là. Il faut que les gens cessent ce qu'il tire là. Lorsque, quand on attend qu'on y travaille bien, lui, le chef là, était ici, l'inspecteur général était au Congo, qu'est-ce qu'il avait fait? Alors, il ne fallait pas que chaque fois qu'il y ait un changement de régime, qu'il y ait des arrestations comme ça.
Mais François, que voulez-vous que la justice fasse lorsque les faits lui reprochés sont vérifiés et avérés, par exemple?
Ah oui, c'est vous qui le dites, cher Gérard.
Non, j'ai dit, lorsque le procès sera ouvert et que les faits sont avérés.
Que les procès soient fixés.
Oui. Alors,
il faut que les procès soient fixés et qu'on les entende, qu'on les pose des questions. Et là, on saura que qui n'a pas tort. Donc,
merci beaucoup. On ne sera pas allé plus loin avec...
Il faut que les gens se fassent cette petite
blague. Voilà, on ne saura pas aller plus loin avec vous. On ne saura pas aller plus loin avec vous. Excusez-moi, en tout cas, François. On revient à vous, Maître Willy Wenga. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? En ce moment, il faut que tout le monde puisse prendre son mal à patience et attendre, disons, qu'il y ait l'instruction du dossier et que le dossier soit ouvert.
En conclusion, il faut demander aux uns et les autres de cesser avec la médiatisation d'un dossier. Lorsqu'il y a une grande médiatisation des dossiers, on risque de croire trop tôt qu'il y a des culpabilités alors qu'il n'y en a pas. On risque de croire très tôt qu'on est innocent alors qu'on ne l'est pas. Donc, il y a lieu de mettre fin à la médiatisation. Ceux qui ont le pouvoir de demander à l'Institut général des finances de continuer son travail en silence peuvent le lui demander. Et ceux qui ont le pouvoir de demander ou de conseiller à son Excellence honorable Matata Ponyo de mettre fin à cette défense médiatique, peuvent lui dire, l'essentiel c'est de se concentrer à un travail pour l'IGF, un travail consistant à trouver dans les enquêtes là où la République a été trompée, et pour Matata Ponyo, un travail à démontrer à la République qu'il n'y est pour rien. Voilà l'essentiel.
Voilà, donc vous concluez également, comme les autres, que ce rapport de l'IGF n'a rien de consonance politique.
Bon, c'est un travail ordinaire, sauf peut-être qu'il faut éviter qu'on soit taxé d'excès des ailes communicationnelles, mais c'est un travail qui est un devoir pour lui, un droit pour le citoyen de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans ce dossier.
Merci beaucoup, Maître Willy Wenga. Vous êtes analyste juridique, judiciaire, si vous voulez également. Vous êtes avocat près de la Cour d'appel de la Gombe. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'interéchanger avec les autres auditeurs ici au pays et à l'étranger. Une fois encore, merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Polydor Basunga, Marcel Ngombombala, Keba. Et cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Je vous retrouve très vite dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.